L'homélie de ce week-end vous est présentée par le père Bertrand Cormier, prêtre du diocèse de Cahors.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Nous voici parvenus au terme de la vie de Jésus sur terre. Son temps est compté. Il va mourir pour rejoindre son Père. Il avait une mission à accomplir et il le sait. Il lève les yeux vers le ciel, vers celui de qui il vient et vers qui il retourne. Car le ciel, dans la Bible, est la demeure de Dieu et de son royaume promis à toute créature. Jésus est pleinement homme et il va en faire encore plus l'expérience. Trahison, manipulation, mensonge, haine, violence, souffrance physique et morale l'attendent. Alors, il se tourne vers son Père, comme pour tout lui remettre, puisque c'est son chemin. Pour rejoindre son Père, avec son humanité, notre humanité, Jésus doit passer par le creuset de l'épreuve. Ne nous laisse pas entrer en tentation, ou ne nous laisse pas succomber dans l'épreuve. Voilà ce que Jésus a appris à ses disciples un jour, alors qu'ils lui demandaient comment prier. Aujourd'hui, c'est au tour de Jésus de prononcer ces paroles qui semblent difficiles à imaginer, tant le lien qui unit le Père avec son Fils est intime, profond et vrai. C'est toute l'humanité de Jésus, dans sa force comme dans sa faiblesse, qui se révèle là. Force de se tourner vers son Père, dans une prière toute empreinte d'amour, non pas seulement pour son Père, mais aussi pour ses disciples, qui pourtant vont le trahir, le renier et l'abandonner, hormis Jean, le disciple bien-aimé. Lorsque Jésus dit que tous soient un, il vient de parler non seulement de ses disciples, mais de ceux qui croiront en lui grâce à leurs paroles. Au moment même où ces derniers l'abandonnent, Jésus voit au-delà, et croient en leur cœur et en leur capacité de se relever après sa propre mort et sa résurrection. La mission du Fils sur terre passe ainsi de Jésus à ses disciples par la parole, sa parole, qui est aussi celle de son Père. Et quelle est cette mission? Père, qu'ils soient un. Ce un n'est pas simplement un chiffre, mais une personne, puisque la prière de Jésus commence par « Père, qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un ». Ce « un », c'est l'unité d'une personne. Un individu, c'est un être indivisible. Une personne est un individu en relation. Jésus est en relation permanente avec son Père. Il est une personne à part entière, totalement livrée à son Père, mais aussi à ses disciples. Alors qu'il entre en passion et qu'il sait les souffrances qui l'attendent, il trouve encore l'énergie de se tourner vers les autres, vers les hommes, vers ses frères, vers l'humanité qu'il désire sauver. Sauver de quoi? De la désunion. La dignité de tout être vivant réside dans le fait qu'il est, et plus encore qu'il est vivant. La dignité de la personne humaine réside dans sa filiation divine. À l'image de Dieu, il nous créa tous. Ainsi, nous sommes tous enfants du même Père par la création. Avant Jésus, nous ignorions non seulement combien nous sommes tous aimés personnellement du Père, mais en plus qu'il n'y a plus de frontières entre les peuples ni entre les religions. Cet amour est universel et promis à tout humain. En disant « Père, qu'ils soient un », Jésus s'engage sur ce chemin d'unification de l'humanité et de la création. Il ne se contente pas de le dire, ni même de l'espérer. Il va donner, livrer sa vie totalement à cette œuvre de convergence et d'unité. Là où le péché divise chaque personne et l'humanité tout entière, Jésus, lui-même parfaitement unifié et uni à son Père, va réaliser l'unité, mais par sa passion et par sa résurrection, en reconnaissant toujours que l'origine de cette unité, c'est son Père. Dans une famille humaine, le Père a le rôle symbolique de l'unité. Il doit y travailler de toute son énergie, car sans cette unité, il n'y a plus de famille. De même qu'une personne coupée en morceaux n'est plus une personne, elle meurt. De même une famille, de même l'humanité entière. La seule unité qui ne puisse véritablement être détruite, c'est l'unité de Dieu le Père avec son Fils. Si cette unité est brisée entre le Père et sa création, elle ne l'est pas avec Jésus son Fils, vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Par Jésus, l'humanité commence à être réconciliée, et en ce dimanche entre l'ascension de Jésus et la Pentecôte, nous savons que la tête du corps du Christ, c'est-à-dire l'humanité de Jésus, est déjà passée par la mort. Sa résurrection et son ascension signifient que nous sommes déjà sauvés, car la tête de l'humanité, Jésus, a vaincu le péché et la mort. Nous sommes sauvés en espérance. Nous pouvons croire en cette unité, désormais, puisqu'elle est réelle et efficiente en Jésus, dans son humanité même. Une part de notre humanité, dit autrement, est déjà unifiée par l'Esprit. C'est ce qui va se passer avec la Pentecôte, puisqu'une des caractéristiques des premières communautés chrétiennes était que les membres n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Cette unité semble impossible pour nous, pauvres humains. Comment deux êtres humains peuvent-ils être un à ce point? Et encore plus tous les êtres humains. C'est la folie de Dieu, qui sait que cela est impossible pour nous, mais que rien n'est impossible à Dieu, même de s'incarner. Ainsi, à nous de désirer une telle unité, si nous voulons que le monde croie que Jésus est bien l'envoyé du Père, et qu'il peut ainsi nous sauver des guerres et de la destruction de la terre. Moi en eux. Jésus est ainsi présent en ses disciples et en tous ceux qui croient en sa parole. C'est donc lui qui réalise cette unité entre nous. Nous serons un si Jésus est en nous et que nous saurons le reconnaître dans les autres. Il deviendra ainsi notre lien d'unité. Ce sera le lien le plus fort, le plus intense qui soit. Rien ni personne ne pourra le détruire puisqu'il est mort et ressuscité. Il sera l'énergie d'amour commune entre tous car il est l'unique, l'image parfaite de la divinité. Si cet amour, l'amour du Fils pour son Père et pour nous, ses frères, circule entre nous, alors nous sommes un de cette unité-là et pas d'une autre. Mais désirons-nous véritablement cette unité? Car pour ne faire qu'un, on voit qu'il faut faire de la place à l'autre en soi. Moi en eux, toi en moi, et plus loin, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. S'il est en nous, y a-t-il de la place pour lui? Comment l'accueillir? Comment accueillir une personne si on n'a pas de place pour elle chez nous? C'est peut-être pour cela que nous avons tant de mal à être unis les uns les autres. On ne fait pas suffisamment de place pour l'autre dans nos vies et dans nos cœurs. Nos malades, les personnes qui souffrent autour de nous, peuvent éventuellement prendre de la place dans nos cœurs. Mais tous les autres, tous ceux que le Père nous confie, mais sur notre route. Souvenons-nous que cette unité-là est impossible en dehors de Jésus et de cet amour du Père pour son Fils et par lui pour nous. Alors demandons-lui de le désirer et peut-être que sa grâce nous permettra d'aimer ainsi, dans l'unité du Père et du Fils. Alors nous serons vraiment ses disciples et ses amis. Alors peut-être entendrons-nous « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami ».